Dans sa série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Cauchemar. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Après son voyage de noces, conduit sa femme en Auvergne. Il a une maison, ancienne ferme de ses parents, dans le bourg du Pré du Vau. Marie-Laure est heureuse. Elle va pouvoir enfin avoir une maison à elle. Elle a passé toute son enfance dans des pensionnats. Elle était sans parents. Et c'est à 22 ans qu'elle va avoir enfin une maison à elle. Sur la route, elle pense à son avenir, ses études d'infirmière finies. Elle ouvrira dans 2 mois un cabinet d'infirmière. Le bourg et les villages environnants sont suffisamment importants pour cela. Clermont-Ferrand est assez loin, et pour les soins, à part les médecins et les religieuses, les gens n'ont rien. Peut-être pourra-t-elle ouvrir son cabinet dans la maison même. La vie professionnelle, ce n'est pas tout. Il y a les enfants. Gilles en veut et elle aussi. À 22 ans, c'est l'âge si on veut en avoir plusieurs. Il faut s'y mettre tout de suite. Elle regarde conduire Gilles. C'est un colosse de 40 ans avec beaucoup de cheveux et de barbe noire. Pendant la guerre, il a été militaire, puis résistant. Ensuite, après la guerre, il a pris un petit bureau de tabac avec sa mère. Il est fils unique, son père est mort avant sa naissance. C'est un bon vivant qui aimait rire, courir les filles et boire. Elle, Marie-Laure, est toute petite, les cheveux bouclés et rousses. Elle semble petite fille à côté de lui. Ils se sont connus à Lyon. Elle y était pour poursuivre ses études et lui était de passage pour voir un ami. Un soir, qu'elle se promenait dans le vieux Lyon, il était 22 heures. La rue était mal éclairée. Elle aimait marcher avant d'aller se coucher, ça la détendait. Tout à coup, l'on entend un grand cri. Puis sort d'une allée un homme qui court et a les mains à son visage. Il s'arrête sous un réverbère. Il est essoufflé, sort les mains de son visage, qui est taché de sang. Sa barbe noire avec ce sang le rend lugubre. Marie-Laure n'a pas eu peur. Elle s'est arrêtée et a observé l'homme. Il voit qu'il est blessé. Elle s'approche de lui. Il fait un geste de recul. « Vous êtes blessé, monsieur ?» Il fait oui de la tête. « Vous permettez ?» Elle prend son mouchoir, va à une fontaine publique le mouiller. L'homme se laisse faire, il est abasourdi. Elle approche le mouchoir de visage pour le nettoyer. Elle voit que ses blessures sont très superficielles et qu'elles ressemblent à des griffes. Qui a pu vous griffer ainsi ?
C'est un chat. J'étais dans une allée, il faisait noir. Un chat m'est sauté dessus. Vous n'avez pas peur du sang, vous ?
Non, je vais être infirmière. Je crois qu'il va falloir vous désinfecter tout ça. Il y a une pharmacie de garde à 5 minutes d'ici. Je vais vous y conduire. Nous sonnerons, c'est pour une urgence, ils viendront. Ce sont de drôles de griffes pour celles d'un chat. Juste à cet instant, apparaît un chat. Elle le mène à la pharmacie pour le faire soigner. Pour la remercier, il veut l'inviter à dîner le lendemain. Elle accepte. Puis, elle s'est attachée à lui parce qu'il faisait homme et qu'il était fort et qu'elle pouvait compter sur lui. Lui était subjugué par cette petite femme de rien du tout qui n'avait peur de rien. 6 mois après leur rencontre, ils se sont mariés dans la plus stricte intimité.
Mes chères sœurs, mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu afin d'unir dans le Saint-Sacrement du mariage cet homme et cette femme.
Sont arrivés. C'est une grande ferme avec ses dépendances, entourée de champs et de bosquets. La ferme appartenait à sa mère. Maintenant qu'elle est morte, il a décidé de vivre ici. Sa pension et sa retraite de militaire suffiront, surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de besoins. La voiture s'arrête devant l'entrée de la maison. Sortent de voiture et ouvrent la porte de la maison. une odeur de renfermé les envahit. Marie-Laure veut tout voir. Il lui fait visiter les pièces et ouvre les volets. Les meubles sont sous leur housse, il y a plein de toiles d'araignée. Après avoir fait visiter la maison, il lui montre les dépendances, ancienne écurie, tonnelle, maison de jardinier.
Là, c'est une grange. C'est ici que j'entrepose certains outils et où j'ai mon bureau pour écrire mes idées sur l'agriculture. C'est mon jardin secret. Là, tu ne pourras jamais y aller. C'est toujours fermé à clé.
Marie-Laure est surprise, mais ne le montre pas trop. Les jours passent. Il s'installe petit à petit. Marie-Laure est heureuse. Elle joue à la maîtresse de maison. Elle aimerait avoir un ou deux domestiques, mais son mari ne veut pas. L'après-midi, ils font de longues promenades dans la campagne environnante. Et le soir est resté au coin du feu. Tout est calme, tranquille. Marie-Laure se sent aimée par son mari. Un jour, durant toute la journée et une partie de la nuit, Gilles semble excité. Il marche de long en large, il n'arrive pas à rester en place. Après le repas, il lui dit
« Je dois sortir. Je rentrerai certainement tard. »
Il l'embrasse sur le front et sort. Marie-Laure est attristée de voir que son mari ne lui a pas demandé de l'accompagner. Alors, elle l'attend. Elle l'attend dans le petit salon. Elle attend une heure. Mais il est déjà 23 heures. Alors, comme il ne vient toujours pas, elle décide d'aller se coucher. À l'aube, elle est réveillée par le bruit que fait son mari en rentrant dans la chambre. Il est tout en sueur, mine défaite, sale, tremblant. Cette apparition lui fait peur. Mais elle est entre le veil et le sommeil. Alors, elle ne bouge pas. Lorsqu'elle se réveille, il fait grand jour. Il dort à côté d'elle. Ses vêtements sont mis en désordre en vrac sur une chaise. Elle se lève sans faire trop de bruit. En passant devant la chaise pour aller vers la porte, elle voit à côté de la chaise à terre un grand couteau Opinel de poche, grand format. Elle le ramasse, voit que le manche est taché de rouge. Elle le met sur la chaise et sort de la pièce. Marie-Laure pense que son mari a dû faire une virée dans les bars avec les connaissances du coin. Une vieille habitude de célibataire. Il a dû trop boire et courir dans les champs. Elle ne lui en veut pas. Il faut bien qu'il s'amuse un peu. En début d'après-midi, il se réveille, va vers sa femme qui se trouve sur la terrasse. Il s'est lavé, habillé de propre, le regard détendu. Elle se lève pour l'embrasser. « Bonjour, tu vas bien ?»«
Oui, je te demande pardon pour mon absence de la nuit. » Mais j'avais besoin de me détendre seul. Tu sais, c'est difficile de perdre ses habitudes de célibataire.
Elle lui dit qu'elle comprenait. Les jours passent, paisibles et tranquilles. Elle est enceinte depuis peu et s'amuse à tricoter des affaires pour le futur bébé. Lui s'occupe au jardin. Le médecin du bourg, le docteur Jacques Vigne, vient les voir souvent. Le médecin lui a dit de rester allongée, car comme elle n'est pas forte, il a peur qu'elle fasse une fausse couche. À force de venir souvent, il est devenu un familier et presque un ami. Il est souvent invité à déjeuner ou dîner et quelquefois à passer la journée avec eux. Il a 35 ans, célibataire, grand, mince, brun, aux yeux profonds et bleus. C'est un homme d'une très grande douceur et gentillesse. Il a débarqué dans le bourg, c'est à cause de son manque d'argent, car il n'a pas pu se payer un cabinet en ville. Lorsqu'il vient, Marie-Laure se sent heureuse. Elle aime sa douceur. Lui a un faible pour elle, mais est très à cheval sur l'honneur et la morale. Il ne fera rien pour qu'elle s'en aperçoive. Elle se rend compte qu'elle peut plus avoir de sujet de conversation avec lui qu'avec son mari. Son mari l'aime, mais il est un peu trop brusque. Une nuit, qu'elle se réveille, son mari n'est pas à côté d'elle ni dans la chambre. Elle se lève pour aller voir où il se trouve. N'est nulle part. Elle s'est recouchée. Elle est réveillée par un bruit dans la cour. Elle va à la fenêtre. et voit Gilles qui ouvre la porte de la grange. Il porte sur son épaule un gros sac en jute, d'où à l'intérieur se trouve une chose qui gesticule dans tous les sens. Gilles est rentré et a refermé la porte à clé. Au bout d'un moment, l'on entend des coups et des cris.
Non ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
Ah ! Ah ! Oh ! Marie-Laure prend une robe de chambre et se dirige en courant vers la grange. Frappée pour qu'on lui ouvre, elle n'ose pas et se cache derrière un arbre. Les petits cris ont cessé. Gilles ressort de la grange. Il a les cheveux et la barbe défaites. Il porte sur son dos le sac en jute qui ne gesticule plus. Il ferme la grange à clé et part. Elle a attendu cachée derrière l'arbre qui s'en aille. Elle a peur et n'a pas osé demander à son mari ce qu'il faisait dans cette grange avec ses cris étranges. Elle veut essayer de voir ce qu'il y a dans cette grange par le trou de la serrure, mais elle ne voit que du noir. Demain matin, elle se réveille. Son mari est à ses côtés, il dort profondément. Elle se dit qu'elle a dû rêver. Mais elle voit sur le visage de Gilles des griffures. Durant toute la journée, elle n'a pas osé lui poser de questions. Le médecin est arrivé. Il la distrait pendant quelques heures en lui donnant des nouvelles du bourg. Son lit, elle veille le plus tard possible pour pouvoir savoir si Gilles s'absente dans la nuit. Mais non, il reste toute la nuit à côté d'elle. Les jours passent sans incident et Marie-Laure se dit qu'elle a dû rêver. Thank you. matin, les médecins lui disent que les gendarmes avaient trouvé dans les bois le corps d'un enfant mutilé à coups de couteau. Ce n'était pas la première fois que l'on trouvait ce genre de choses. L'enfant était un enfant de la colonie de vacances. Il avait disparu hier après-midi au cours d'une de leurs promenades. Marie-Laure demanda quel âge avait l'enfant. Il avait 6 ans. Elle réfléchit une seconde puis dit « 6 ans, ce n'est pas plus grand que ça ?»« Oui. » Durant toute la journée, elle reste songeuse. Non, ce n'est pas possible. Tu te fais des idées. Gilles, un homme comme lui, il est peut-être un peu brusque, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Les jours passent. Gilles reste tranquillement chez lui. Mais, petit à petit, il devient de plus en plus nerveux. Il ne tient plus en place. Et, une nuit... Marie-Laure est réveillée comme la dernière fois. Elle court à la fenêtre. C'est Gilles qui ouvre la porte de la grange. Porte comme la dernière fois un sac de jute sur le dos, qui gesticule lui aussi. Il est rentré dans la grange et ferme la porte à clé. Marie-Laure reste à la fenêtre. Tout à coup, l'on entend des coups et des cris. La porte s'ouvre. Il sort avec le paquet inerte. Il semble tout joyeux. Après avoir refermé la porte de la grange à clé, d'une main, il rajuste sa braguette et part. Marie-Laure se recouche et l'attend. Une heure plus tard, il rentre dans la chambre sans bruit. Se déshabille et se couche. Dans la journée, Marie-Laure ne dit rien et s'empêche de penser. Gilles est parti faire des courses au village. Durant son absence, le curé du bourg est venu leur rendre visite. C'est un vieillard maigre à cheveux blancs. Il porte, comme ça se faisait encore dans les années 50 où se déroule cette histoire, une soutane et des brodequins. Marie-Laure est allongée sur une chaise longue sur la terrasse. Elle tricote. Le curé s'approche, elle se lève pour le saluer et lui sourit. Il voit qu'elle a le sourire crispé, les traits tendus et nerveux. « Bonjour, monsieur le curé. Bonjour madame, je ne vous dérange pas? Non, asseyez-vous, je vous en prie. Il s'assoit. Je viens prendre de nouveaux nouvelles, puisque ni vous ni votre mari ne viennent à la messe. Comme vous pouvez voir, monsieur le curé, je me porte bien. L'enfant grossit dans mon ventre. Mon mari va bien, lui aussi. Il est absent. Il est allé faire quelques courses.
Ah ! Votre mari, cela fait des années que l'on se connaît. Nous avons fait le maquis ensemble.
Oui,
une sacrée époque. Mais il a dû vous en parler.
Non, il ne m'en a jamais rien dit.
Dites-moi ce qu'il faisait,
comme vous voulez.
Vous savez, votre mari est un brave homme.
Voilà. En 1939, il commandait une division d'infanterie. Il y a eu cette débâcle, puis l'armistice. Mais Gilles n'a jamais accepté la défaite de la France. Sa division et lui sont devenus des maquisards. Ils opéraient dans la région, ils vivaient dans les bois, les fermes isolées. Moi, je faisais partie du groupe. Comme il fallait bien se nourrir, on allait chercher les ravitaillements dans les fermes voisines. L'on demandait à des paysans de nous donner de la nourriture. C'est ce qu'ils nous donnaient de bonne ou de mauvaise grâce. Il y avait une ferme, une jeune fille, la fille du fermier. Elle avait 16 ans, elle était belle et pure, mince avec des cheveux courts, un visage d'une pureté lumineuse. C'était elle qui nous servait. Elle disait toujours qu'elle nous enviait, que c'était beau de se battre pour sauver la France, que Dieu était avec nous. Qu'elle le savait, car il lui avait fait comprendre. Personne ne riait lorsqu'elle disait cela, et pourtant il y avait de rudes gaillards parmi nous. Mais Gilles se taisait et la regardait comme si c'était une apparition. Elle était tellement pure et douce. Un jour que nous étions dans la cour, elle nous dit qu'il fallait qu'elle parte avec nous, que c'était la volonté du Seigneur. Nous nous mîmes à rire et lui dire que la vie avec nous était difficile, dure. L'on se battait. « Donnez-moi un fusil et vous verrez si je ne suis pas capable de tirer. » Gilles s'approche d'elle avec sérieux, lui donna un fusil. « Vis cette pierre-là. » Elle prend l'arme. « Je n'ai jamais tiré. » Mais avec l'aide de Dieu, j'atteindrai cette pierre. Elle vise et tire. La pierre explose. Vous voyez que je peux tirer. Je viens avec vous. Il le faut. Il faut libérer la France. Gilles s'approche d'elle.
Si tu viens avec nous, ce sera pour te battre. La vie est très dure. Nous vous cachons. Et puis tes parents ne voudront peut-être pas.
Elle lui dit, qu'on le veuille ou non, parce que c'est la volonté de Dieu, j'irai. Elle appelle ses parents, ils viennent. Elle leur dit qu'elle doit partir. La mère est en larmes, mais le père lui dit, j'aurais aimé avoir un fils, j'ai eu une fille. puisque je suis trop vieux pour me battre, ce sera mon enfant qui le fera à ma place, par ma fille, Dieu le veut. » Elle embrasse son père et sa mère et part avec nous. Les jours passent. Elle a vite pris les habitudes de sa nouvelle vie. Elle se bat, se cache comme nous. Elle agit comme un homme tout en restant femme et pure. Dans la plupart de nos combats, elle est en avant. Nous sommes tous émerveillés par elle et surtout Gilles. Le soir, lorsque nous étions tous réunis autour d'un feu, Jeanne était légèrement à l'écart et à genoux elle priait. En la voyant, personne ne riait ou ne cherchait à se moquer. Elle était tellement pure et belle. Gilles était de plus en plus subjugué par elle. Il l'aimait, mais d'une façon pure et sans aucun désir. Il restait souvent à côté d'elle. Elle lui parlait de Dieu, de la France. Il restait et écoutait ses conversations comme illuminé. Oui, il l'aimait vraiment.
Ici Londres, les Français parlent au français. La marmotte est pleine de mythes. La marmotte est pleine de mythes. L'avenir est pour demain. Je répète, l'avenir est pour demain. Le gourou n'a pas notre gourou. Le gourou est respecté. Je répète, le gourou est respecté.
Un jour, elle est partie en mission apporter un message. Elle a été arrêtée. Nous n'avons pas su vraiment comment. C'est fait son arrestation. Lorsque Gilles l'a appris, il a été fou, furieux. Il a eu peur pour elle, car il savait qu'elle ne parlerait pas. Il décida de tenter le tout pour le tout, d'aller à Clermont-Ferrand, se renseigner et attaquer la Gestapo. Il voulait y aller seul, mais je l'ai accompagné. Nous sommes allés, nous sommes renseignés. Elle était morte depuis 2 jours déjà. Elle n'avait pas supporté la torture, mais elle n'avait pas parlé. Gilles devint furieux. Il voulait attaquer à lui tout seul la Gestapo. Je l'en empêchais en l'assommant d'un coup de poing sur la figure. Lorsqu'il reprit ses esprits, il resta sans bouger ni parler, le regard hagard. Nous repartîmes par le train le lendemain matin. Durant tout le trajet, il ne parla pas. Puis avant d'arriver, il me dit
« Si Jeanne a été tué, c'est la preuve que l'on ne peut pas avoir confiance en Dieu. Il ne nous aime pas. Il vaut mieux aimer le diable que lui. » Je ne lui répondis rien. Je savais que ça ne servirait à rien.
Il avait reçu un choc. Il fallait attendre qu'il se remette. À cette époque, je n'étais pas encore prêtre, mais je croyais en Dieu. J'ai quelquefois regretté de ne pas lui avoir répondu. De ce jour, il devint taciturne, violent, coléreux. Il lui arrivait même de se mettre en colère tout seul. Il combattait les ennemis d'une façon de plus en plus violente. Une fois, il arriva une chose désagréable. Il avait, lui, recruté, et malgré nos avis défavorables, un jeune adolescent de 16 ans. Je ne sais pourquoi, il était toujours après cet enfant. Il le surmenait sans arrêt, il faisait faire les corvées les plus ingrates. Il le voulait toujours près de lui, jour et nuit. La nuit, l'enfant devait coucher à ses pieds. Il avait une façon de faire qui était despotique avec lui. L'enfant n'était pas costaud, il était maigre, avait la taille de son âge, blond le visage, petit garçon. Malgré son air malingre, il acceptait toutes les corvées sans broncher. Un jour, nous étions au bord d'un étang, il faisait chaud, nous étions en été. L'enfant s'était déshabillé, avait plongé pour se baigner. Puis, il s'était étendu au soleil pour se sécher. Gilles l'avait observé durant sa baignade et le regardait se sécher au soleil, allongé sur le gravier. Il observait en marchant autour de lui. Tout à coup, on ne sait pourquoi, il se mit à soulever l'enfant et à le battre comme un ébon. Nous avons tous accouru pour qu'il s'arrête. Avec un camarade, je suis arrivé à lui faire arracher l'enfant. L'enfant a pris ses vêtements et a couru. Nous n'avons jamais su ce qu'il était devenu. Mais je crois que j'abuse. Vous savez, lorsque je suis parti, je ne peux pas m'arrêter. Je vous ennuie certainement avec ces histoires. Vous ne m'avez pas du tout ennuyé. Le prêtre se lève. Je dois prendre congé, il se fait tard. Vous passerez vos amitiés à votre mari. Cette conversation rendit songeuse Marie-Laure. Les jours passent. Un jour, le médecin dit à Marie-Laure que l'on avait trouvé encore trois corps de jeunes enfants morts, mutilés. Les enquêtes de la police progressaient petit à petit. La police avait conclu que les enfants n'avaient pas été tués sur place, qu'ils avaient été enlevés, cachés dans un endroit la journée. Ils avaient trouvé des traces et des vêtements dans une vieille ferme abandonnée, mais les enfants avaient été tués ailleurs, où, ça on ne savait pas. Puis, une fois tués, déposés dans la forêt. L'assassin devait être un déséquilibré sadique. Il faisait subir à ses victimes des sévices sexuels avant et après la mort. Une mort atroce à coups de couteau. Un jour, Marie-Laure, en faisant le ménage dans le bureau de son mari, voit sur son bureau un livre. c'est un livre sur la sorcellerie et Gilles Doré. Il voit qu'une page a été cornée et lit le sujet du chapitre. « Pour que votre enfant soit offert au diable. » Elle referme le livre et sort en courant. Médecin Jacques est avec elle dans sa chambre. Elle est couchée. Pourquoi voulez-vous vous faire avorter? Parce que je ne veux pas d'enfant de mon mari. Vous êtes disputé avec lui? Non, mais j'ai appris des choses qui me font dire que mon enfant serait en danger avec un père comme lui. Je ne peux pas vous faire arrêter votre grossesse. Elle est trop avancée. Il faudrait quelque chose de très grave pour que l'on vous donne l'autorisation de le faire. Si je vous la donne, cette autorisation grave, vous ferez en sorte à ce que j'ai l'autorisation. Elle se lève, met ses pantoufles, suivez-moi. Ils vont au bureau, elle lui montre le livre et la page gardée. Ce sont des enfantillages, ce n'est pas une preuve. Et si je vous dis que depuis quelques mois mon mari découche, revient le soir très tard et va dans la grange avec un grand sac en jute sur l'épaule qui bouge et hurle. Il s'enferme et j'entends des bruits horribles. Puis il sort le paquet qui ne bouge plus. Si vous saviez dans quel état il revient, sale et quelquefois avec des taches de sang, je crois que mon mari est l'assassin sadique des enfants retrouvés morts ces derniers mois. Attention à ce que vous dites, madame. Ceci est très grave. Il faut des preuves. Qu'y a-t-il dans cette grange? Je ne sais pas. Il ne veut pas que j'y aille. Écoutez, docteur. Vous voulez des preuves? Mon mari est parti ce matin. Il ne reviendra que tard dans la nuit. Comme les autres fois, il ira dans la grange avec un fardeau. Marie-Laure est postée à la fenêtre de sa chambre. Le docteur est caché derrière un arbre devant la porte de la grange. Il attend. Gilles apparaît. Il est sale et su. Porte sur son épaule un sac de jute qui gesticule dans tous les sens. Il approche de la grange, ouvre la porte. Juste avant d'entrer, le médecin lui met la main sur l'épaule. « Pouvez-vous montrer ce que vous avez dans votre sac et dans votre grange ?» Gilles se retourne et lui donne un coup de couteau dans le ventre. « Ah ! Ah ! Ah ! » Le médecin s'effondre. Marie-Laure, en voyant la scène, s'évanouit. Marie-Laure se réveille et est dans la voiture avec son mari qui conduit.
« Alors chérie, bien dormi? Nous sommes bientôt arrivés. Tu vas voir la maison? Notre maison. Elle a appartenu à notre famille depuis 1850. »
Le lendemain, Marie-Laure est remise de son cauchemar et du voyage. Gilles lui fait faire le tour du propriétaire.
la grange, ma chérie. Je te demanderai de ne pas y aller. C'est mon jardin secret. Ce sera toujours fermé. Série L'écran radiophonique, Radio Caduze a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Cauchemar. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.